Le retour de Radio X.
Avec DH, Jordan et Mel Trudel.
Radio X. Yann Bussière.
Il est là, mesdames, messieurs.
Allô?
Avec notre DJ aussi, Jordan.
J'ai mis du tune de Noël.
Ah! Hein? Ah, c'est, ça, on aurait pu choisir une tune de Bon Jovi de Noël, mais garde, ouais, on t'a épargné.
C'est. J'apprécie, Danny, pour une fois.
Mais oui! Hein? Pour une fois, on se respecte.
Oh, oui, c'est correct.
Hey, tu, est-ce que tu apprécies mieux mon gilet des Nordiques ou celui du Canadien?
Moi, à l'époque, j'étais un partisan des Nordiques.
Okay.
Mais vu que l'équipe n'existe plus, j'étais
rendu...
un partisan du Canadien.
T'es viré de bord. T'étais capable de faire ça, mon Yann.
Tout à fait. Tout à fait.
Mais ça a-tu pris, mettons, des années ou ça s'est fait en un an? Ils sont partis
non,
bonsoir,
ça s'est pas
fout.
Fait en un an, honnêtement. Tu sais...
T'es un faux nordique.
Je vis très bien avec ça. Hein.
Oh oui, mais c'est
mais,
un faux.
Dire, non, mais je suis comme... Comment dire? Ouais, c'est ça.
Qu'est-ce qui, j'essaie de se comprendre qu'est-ce qui a pu t'amener à aimer le Canadien tellement ils ont été mauvais dans les dernières années.
Je te dirai après.
OK.
Je te le dirai après.
Okay.
Parce que, mettons, quand l'Avalanche a levé sa coupe, aussitôt qu'ils sont déménagés, ça t'a-tu fait mal en dedans un peu?
Ben, moi, je trouvais ça plate, parce que ça aurait été la première coupe des Nordiques, mais oublie pas que s'ils étaient restés à Québec, je pense pas qu'il y aurait eu Patrick Roy.
Il n'y aurait pas eu de coupe tout court.
C'est des ici. Avec des ici, tu peux mettre Paris en bouteille.
Oui, 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 oui.
Fait
c'est bien
mais, tu sais, honnêtement, il y avait une bonne équipe, puis ils sont déménagés au moment où il y avait une bonne équipe, qui lui manquait peut-être un ou deux morceaux. Peut-être qu'il aurait gagné, peut-être pas l'année d'après, peut-être deux ans après, je sais pas, personne ne le dira. Mais j'ai effectivement toujours été un partisan des Nordiques. Mais là,
ça a été vendu hein, pour la modique somme de combien déjà les Nordiques?
Pas cher.
115 millions.
Si tu compares avec le prix des franchises aujourd'hui,
le Canadien
c'est de la menu
vaut
monnaie. Là.
3,4 milliards actuellement.
Ne te demande pas pourquoi ça se fait pas, le retour des Nordiques. Ça coûte cher, l'équipe. Je suis pas sûr que ceux qui voulaient acheter ont encore le goût.
Je suis pas sûr que les gens ou dans la région de Québec, on serait capable d'acheter des billets de saison puis de supporter l'équipe.
À 41 games par année à 280$.
Ça marche à Winnipeg, mais quand l'équipe va moins bien, ils ont moins, c'est plus difficile. Mais moi, je me dis, ça marche à Winnipeg, ça pourrait, mais là, tu vas me dire, ils sont tout seuls dans le marché. Hein?
Si on avait eu notre building dans le temps, là, 2011, quand Atlanta n'allait pas bien, je pense que c'est nous autres qui l'auraient eu. Mais, tu sais, on a manqué le bateau.
Moi, en 2011, j'étais allé à Atlanta, hein, à cette époque-là, là, juste avant, à la fin de la saison. Puis j'étais allé en Floride aussi, parce que les Panthers, il n'y avait pas grand monde à ces matchs-là. Puis justement, pour voir comment que ça se passait. Puis Atlanta, là, c'était pathétique, mais... Non.
À Floride, moi, je suis allé deux fois aux Panthers, puis c'est dans le temps que ça fonctionnait pas, là. J'avais 25$, là, j'étais troisième ban avant.
Ah oui, puis il te donne des billets, je veux dire.
Oui, c'est
t'arrives
ça.
Là, tu dis, moi, je viens de m'installer ici, puis je m'intéresse au hockey, je suis Canadien. Ouais. OK, premièrement, on te donne des billets pour la game d'asseoir, là, puis t'es genre quatrième rangée. Puis après ça, ben, tu sais ça. Puis, mais comme tu dis, ce qui est arrivé, là, c'est que Winnipeg était déjà prêt, OK?
Ouais.
Puis il y avait déjà des démarches, fait quand il a été le temps déménager à Atlanta, ben, il était prêt. Fait que peut-être
que Thompson
ça,
avait du cash,
pas,
là, la famille Thompson.
Ouais, mais, tu sais que ça se parle qu'il pourrait retourner à Atlanta une troisième fois.
Ouais, projet d'expansion.
Oh,
parce qu'ils construisent une aréna.
C'est sérieux, là. L'aréna
qu'ils construisent est à peu près à 100 km d'Atlanta.
Exact.
Fait qu'il y a des projets sur la carte. Fait que les prochains à venir, moi, je pense, c'est Atlanta puis Houston.
Ouais, c'est sérieux. Oui, Houston.
Donc, ils vont retourner à Atlanta une troisième fois, mais ils n'y reviendront jamais.
Ben, ils n'ont pas compris. Hein?
Non, c'est Québec n'est pas ça sur le radar.
Bob Hartley, rapidos, il racontait ça à un moment donné d'un segment à BPM. Là, il disait qu'il fallait qu'à chaque arrêt de jeu, il explique les règlements aux partisans
exact.
Avec l'annonceur.
Oui,
ceci est un enjeu. Quand il dépasse la ligne bleue,
on s'entend à ses premières années, là. Ah ouais. Mais il y avait eu les Knights d'Atlanta. Il y avait quand même une équipe qui était là, Ligue internationale, quand même. C'était pas tous des jambons qui connaissaient pas le hockey qui étaient là.
Mais certains.
Pas exagéré.
Non, certains étaient jambons. Certains. Mais c'était pas la
même. Manon Réaume avait gardé les buts, là, Ligue internationale pour les Knights d'Atlanta, si je me rappelle bien. Là.
Ah oui,
ouais,
c'est ça.
Il me semble que.
Ben, elle a fait le club école du Lightning.
Qui était les Knights d'Atlanta, si je me trompe pas, là.
OK.
Faudrait vérifier, mais je suis pas mal sûr de mon coup.
Bon. Parlons donc de Meganeff.
Ah oui, ben oui.
Ça vient.
Oui, ben c'est la tournée d'adieu. La tournée d'adieu pourrait durer 3-4 ans. Hein?
Okay.
Il l'a dit, Dave Mustaine, c'est une tournée d'adieu, mais elle peut être longue. Là. Fait que,
c'est une troisième présence à Québec en cinq ans, hein, c'est ça?
Oui, puis au-delà de ça, là, ils ont joué très souvent à Québec dans à peu près tout ce qu'il y a de salles. Hein. Et ils ont fait le pavillon de la jeunesse, ils ont fait évidemment le Colisée à l'époque, le Centre Vidéotron, ils ont joué au Capitole. Ils ont fait pas mal toutes les salles.
T'as rencontré Dave Mustaine une couple de fois, font pas mal?
Moi, j'ai interviewé trois fois Mustaine. Okay. C'est dans mes meilleures entrevues que j'ai faites. Ouais. Très sympathique.
Il est généreux.
Alors qu'à l'époque, il était un des pires gars à avoir en entrevue.
Pourquoi?
Ben parce qu'il était pas fin, il était pas gentil, il était désagréable.
La première fois
que je l'ai interviewé, ouais. Nicolas Hull était directeur des arts et spectacles au Soleil, le poste que j'occupe présentement, puis il m'avait dit « Fais attention ». Parce que moi, j'ai déjà interviewé, puis c'est une catastrophe. Il est désagréable, il est pas fin, il est tout ce que tu veux.
C'est quoi, il te répond
puis,
pas?
Puis, il est bête. Puis, je suis arrivé, puis ça a été la meilleure entrevue de ma carrière. Sauf qu'entre-temps, Dave Mustaine avait arrêté de boire, de se droguer, puis il avait découvert Jésus.
Oh.
Ça a changé l'homme.
Et comme Conor McGregor.
J'ai eu trois entrevues avec Mustaine et c'était fantastique. Il a même nommé mon nom sur stage au Festival d'été tellement il avait aimé son nom. Ouais, mais moi, je sais pas là. À un moment donné, un soir, je suis chez nous au Festival d'été, puis là, mon cellulaire buzz. Puis là, tout le monde est en train de me texter qui vient de parler de lui. Ah, après-midi, j'ai une entrevue avec Yann du Soleil. Tout le monde me texte. Qui a dit mon nom sur le stage. Je suis comme, ben voyons donc. Ben oui, c'est ça, mais tu sais, Mustaine, à un moment donné, quand je commence à interviewer, en plus, tu as deux choses l'une. Là. On se met à parler de musique. Puis lui, c'est un gars qui écoutait beaucoup de punk rock. Fear, Sex Pistols. D'ailleurs, pris Anarchy in the UK, qui fait plus en spectacle, j'y reviendrai. Là. Mais un moment donné, j'ai parlé de ça. Puis ah ouais, t'aimes les Sex Pistols. Moi, Fear puis Sex Pistols, c'était mes bandes préférées. Puis là, ça part. Là, à un moment donné, quand tu trouves des trucs en commun, même le gars est comme moi qui est le gars qui connaît la musique. Puis ça a très bien été. J'ai reparlé quand il est venu ici pour lancer sa bière à tout le monde.
Ouais, c'est ça.
T'sais, ironiquement, c'est un gars qui boit plus, mais ben, en fait, de la bière, il peut en boire, mais il boit plus d'alcool.
C'est une bière sans alcool? Non, c'est une vraie bière.
J'ai posé la question. Ouais. C'est un gars qui est sobre. Ben, il dit, moi, je suis sûr qu'il est capable de boire un peu de bière, un peu de vin, sans en abuser. Il dit, pas tout. Ceux qui sont alcooliques qui peuvent faire ça, mais il dit, moi, je suis capable de boire modérément. Puis il dit, pour ça, son vin, parce qu'un vin, sa bière, il a goûté, là. Okay. Pensez pas qu'il a pas goûté, parce que c'est un gars qui est... Mais il est capable de se raisonner là-dedans. Puis c'est pas tous les anciens alcooliques ou toxicaux là, qui sont capables de faire ça. Mais la drogue, il touche plus à ça.
OK, en une minute, N-Track, c'est Exodus. Ça va être bon?
Ça va être très bon.
Très
Exodus, c'est le band, le premier guitariste, c'est un monsieur Kurt Hammett, là, que Metallica sont allés chercher. Ouais. Justement, quand ils ont mis Mustaine dehors, ils sont allés pêcher Kurt Hammett dans Exodus. Puis, fait que c'est un band quand même légendaire dans le thrash metal. Puis Anthrax, leur nom est fait aussi. Ils sont dans le Big Four avec Megadeth, Metallica, Slayer puis Anthrax. Anthrax, je les ai vus il y a quelques années à Trois-Rivières. C'était très bon, hein? Scott Ian, Joey Belladonna, qui a une des meilleures voix du metal, si tu veux mon avis. Là. Ça fait que ça va être excellent comme line-up.
Hey, les auditeurs, demain, on a 5 paires de billets et 5 autres dimanches dans Légende du rock. À gagner pour aller voir Megadeth. Ça se passe le 6 mars prochain.
Centre Vidéotron.
Au Centre Vidéotron. On va changer de registre. Do They Know It's Christmas?
Ah oui!
OK, la toune. Mais là, écoute, cette toune-là, là,
ça a été la première.
Elle a 41 ans, cette toune-là.
Ouais. C'est Band-Aid, dans le fond. C'est la première. On se souvient des tounes qui ont été faites pour l'Éthiopie. Là, You Tears Are Not Enough au Canada. We Are the World, évidemment, aux États-Unis. Au Québec, il y a eu Les Yeux de la Faim. Hein? Okay, il y a même eu Ear and Aid, hein, des artistes métal qui avaient fait un album pour aider la famine en Éthiopie. Mais le premier, c'est Band-Aid. Ça a été lancé par un gars qui s'appelle Bob Geldof, le chanteur des Boomtown Rats, et Midgeour de Ultravox. Midgeour qui a été dans plein de trucs avant.
Les années 80,
Midgeour. Il a été dans Rich Kids. Il a même joué avec Thin Lizzy. Ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, Geldof, dont la femme est une journaliste présentatrice télé, lui, à un moment donné, il a été ému par les reportages qui parlaient de la famine en Éthiopie. Il a dit faudrait faire de quoi. À un moment donné, il a appelé sa femme. Il savait que sa femme, elle rencontrait Midgeour. Il a appelé sa femme, elle a dit passe-moi Midgeour. On fait-tu quelque chose? Okay. Ils ont créé une toune. Au lieu de prendre une toune qui existait déjà, parce que comme ça, ils n'ont pas besoin de payer de droits ou de redevances, ils pouvaient donner tout l'argent pour la famine en Éthiopie. Donc, ils ont composé une chanson. Et là, ils ont invité plein d'artistes britanniques connus.
C'est Phil Collins qui fait la batterie sur ce
tune-là. Le batteur, c'est Phil Collins. Et là, il chante pas, mais c'est le batteur. Puis, bon, tu sais, t'as les gars Duran Duran, t'as George Michael qui est là, t'as évidemment Geldof Fior, bien sûr. Puis, Boy George, si je me souviens bien, était
il est là.
Sting est là. Dans les grands absents, t'en as qui n'étaient pas disponibles, qui n'ont pas pu être là, ben David Bowie, Paul McCartney, tu sais, il aurait probablement aimé participer, mais ils n'étaient pas disponibles la journée qu'ils ont enregistré ça. Ils ont lancé ce single-là. Ça a été un hit.
Numéro 1, 5
semaines.
Ça a ramassé
beaucoup d'argent, Puis on disait à l'époque que Bob Geldof allait peut-être être en considération pour le prix Nobel de la paix pour ça. Ben, ça s'est pas fait, là. Mais, tu sais, à ce point-là, parce qu'après, à peu près tous les pays ont lancé leur initiative pour l'Éthiopie. Tu sais, je parlais de We Are The World, qui est très connu, mais tu sais, c'est suite à ça, là. Les premiers qui l'ont fait, c'est Geldof puis Yor avec Band-Aid. Ben ouais.
T'sais, c'est une des tounes, moi, les tounes de Noël. Là,
moi aussi, c'est une de mes préférées.
Ouais, c'est une des. Il ne changeait pas de poste.
Ouais.
Ça vieillit bien, elle.
Ça vieillit bien. T'sais, contrairement à. Comment elle s'appelle là, tu m'en parlais hier, là, la
Mariah Carey.
Mariah Carey, capable. Arc. Hey, on va changer encore de registre. Michael Jackson.
Ouais!
Thriller. Uh-huh. Dans deux jours, ça va faire 43 ans. Thriller,
c'est fou, hein?
C'est fou, hein?
C'est, moi,
écoute, 82, là, je suis pas mal. Un ado, là. Je suis né en 68, là.
Ouais. Mais moi, je suis en 71. Moi, j'ai vu le Victory Tour des Jacksons au Stade Olympique. Parce que, tu sais, Michael Jackson, il n'a jamais fait de show au Canada. Hein?
Jamais.
Non, il a fait zéro show au Canada. Okay. Il en a fait avec ses frères.
Il ne voulait pas?
Pose-moi pas la question pourquoi. T'sais, les États-Unis, c'est là ce qu'il en a fait le plus. Ensuite, c'est le Japon, Royaume-Uni, Australie, France... Mais il a jamais joué en solo au Canada. Par contre, en 81, après l'album Off the Wall, il était en tournée avec les Jackson pour, je pense, c'est Destiny ou Triumph. Il a joué au Forum avec les Jackson. Quelques pièces de son répertoire également là-dedans. Puis après Thriller, ben, il n'a pas joué au Canada, mais quand il y a eu l'album Victory avec les Jackson, là, il a fait le show au Stade Olympique, là, trois soirs. Moi, j'étais à un des soirs. J'ai pas vu ou entendu grand-chose. C'est au Stade Olympique, l'acoustique est merdique, puis t'es loin. C'est pas la meilleure place voir un show. Maintenant.
Non.
Mais garde, je peux dire que j'étais là, mais je suis pas de grand-chose.
C'est l'album le plus vendu, Trailer.
En fait, ouais, c'est...
J'ai encore vérifié tantôt, ça me disait ça.
Il y a plusieurs
70
trucs qui
millions
disent
de copies.
Que ben, c'est effectivement Trailer, mais il y en a qui disent Dark Side of the Moon, d'autres qui disent Back in Black.
Ça dépend
comment tu te lances ça, mais c'est Thriller. Thriller, un album qui a juste deux pièces sur l'album qui n'ont pas été sorties en single, by the way. C'est genre Baby Be Mine puis Lady in My Life. Il y a beaucoup d'argent qui a été fait avec cet album-là. Je pense qu'il avait investi beaucoup. Puis tu sais, je te parlais d'Off the Wall.
Je l'ai le prix. J'ai le montant. Cet album-là, en production, il a coûté 750 000 US.
Pour l'époque, là...
C'était du cash.
Pour l'époque, en 82. Là, c'était en 82, énorme. Les gars de Toto, hein, qui ont beaucoup travaillé là-dessus, Steve Porcaro, Steve Lukather joue de la guitare tout le long de l'album.
Ah, Toto est associé à cet album-là.
Les gars de Toto... Ben, la tune Human Nature, là...
Oui.
Ça, c'est un classique, là.
Ouais.
Ça, cette tune-là, était même pas supposée... C'est Steve Porcaro de Toto qui avait fait un démo pour Toto. Et puis, le band avait dû voir, on l'a fait pas. Puis, à un moment donné, Porcaro, il avait fait. C'est-à-dire, Lukather avait fait des trucs parce que lui, il collaborait à Thriller sur une cassette. Puis, il avait proposé ça à Quincy Jones. Quincy Jones a tout écouté ce qu'il avait fait, trouvait pas ça bon. Mais la cassette a fait Toto Reverse, puis c'est tombé ses démos qu'il avait enregistrés de tout ça. Là, Quincy Jones, il a dit: hey, ça c'est bon, ça nous prend ça.
Ah oui.
Fait qu'ils ont fait ça, ils ont demandé à un autre gars de mettre d'autres paroles dessus. Puis, ça a fait cette toune-là. T'entends Greg Phillinganes là-dessus, qui est de Toto aussi.
Ouais. Ben, peut-être nous jouer Beat It. Il va nous dire qui fait le solo de guitare là-dessus.
Ouais, ben là, Beat It. C'est l'époque où, des années 80 où la pop, il y avait quand même des éléments de rock dedans en plusieurs. Puis c'est ce qui était dans le solo que t'entends là sur Beat It. Ben évidemment, c'est Eddie Van Halen, un des meilleurs guitaristes au monde. Qui fait ce solo-là, il avait demandé, il s'était payé Eddie Van Halen pour faire le solo de Beat It. Solo comme pas mal légendaire. Et quelques années plus tard, il allait se payer Slash pour Dangerous. Je me rappelle plus c'est sur quelle tune pour faire un solo, justement. Là. Et sur Thriller, t'entends la voix de Vincent Price qui jouait Dracula. Tu sais, au début, à un moment donné dans la toune, là, t'as une voix d'outre-tombe qui parle, ben c'est Vincent Price. Puis à la fin, ben, il qui fait « C'est Vincent Price.
OK. Ouais.
Ça.
Hey, toi, tu nous parles de Jackson Music et dans une demi-heure et 35 minutes après, Ian Halperin va nous parler des coulisses de Michael Jackson. Hey, lui, il l'a rencontré deux fois. Il a écrit un livre.
Oui,
il y a un best-seller à New York sur le New York Times avec
tout
ça.
Tout à fait. Ouais, ben je sais que. Mais Michael Jackson, c'est comme tu dis, là, tu peux parler de lui pendant deux heures. Ben oui. Il y a toujours du stock à dire.
Il y a eu beaucoup de controverses autour
beaucoup
de Michael
controverses,
Jackson.
Puis hein? En même temps, tu sais, c'est un gars qui. La carrière a commencé autour de 7 ans avec les Jackson. Puis qui est devenu comme le roi de la pop. Puis là, il y a toutes sortes d'affaires autour. Là. Tous les excès, là, ouais. Là, je veux dire. Là, c'est son ranch de Neverland. C'est ça.
Hey, écoute, on avait d'autres sujets, mais le temps est écoulé. Ça fait déjà 17 minutes qu'on jase. Merci beaucoup, Yann.
Hey, ben ça me fait plaisir, Dan.
Un bon retour dans notre patelin.
Ouais.
Thetford Mines.
Ben oui.
C'est ça. Puis on se reparle dans une semaine.
Bien sûr.
Merci, Yann.
Salut.
Parlons pédo avec Morin. Retour de Radio X.
Téléphone, texto, 88-670-9098.
Radio X.